C'est toujours intéressant de partager ça, parce que ça peut nous aider, nous aussi, à changer de regard, et éventuellement, à avoir des attitudes qui sont plus positives.
Est-ce que vous avez constaté aussi une évolution du public ou des publics qui viennent ici au Bucolique depuis 2014?
Oui, j'ai constaté un changement, c'est-à-dire au début toutes ces thématiques, parce qu'on a eu on a eu la permaculture, on a eu la biodynamie, on a eu la géobiologie, c'était des choses un peu nouvelles, et puis ça faisait un petit peu rigoler. Et puis maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, maintenant, c'est des pratiques qui sont vraiment passées dans la vie courante. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît, tout le monde a envie d'essayer, de faire mieux. Donc oui, je vois vraiment une différence.
On rappelle donc les bucoliques, c'est ici à l'abbaye de la Sala. C'est les 26, 27 et 28 avril. Donc on invite les gens à venir vous faire un petit coucou, tout simplement.
Oui, merci beaucoup. Et puis, vous avez toutes les informations sur le site aussi, internet, c'est www.lesbucoliques.ch. Vous pouvez venir aussi en transport public, enfin, tout est noté sur le site.
Il y a tout ce qu'il faut. Martine Cardozo, merci beaucoup. Et on rappelle donc que vous êtes la fondatrice des Bucoliques ici à l'abbaye de la Sala. Merci beaucoup et plein succès à vous.
Merci beaucoup, merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On termine ce mag par un joli projet de culture qui cherche à mettre en avant son propre peuple à travers un événement qui aura lieu ce soir à la bibliothèque de Viollet. Deux Viollets Roux vont en effet dévoiler leur premier ouvrage lors d'une soirée littéraire. Au programme, un roman en nous plongeant dans la classe ouvrière britannique et un recueil de témoignages sur le thème du suicide assisté. Julie Gay est allée à la rencontre de l'un des deux auteurs, Olivier Leclerc, pour parler de son premier roman intitulé « I'm a boy from Liverpool ». Je crois qu'on dit « I'm a scouse » ou « a scouse » du côté du Merseyside et avec accent. Il était accompagné de la responsable de la bibliothèque communale de Viollet, Marisol Mario. On l'écoute au micro de Julie Gay.
Pour la bibliothèque, c'était une évidence d'inviter ces deux auteurs qui sont locaux et de leur donner la parole à la bibliothèque. On est une institution culturelle, on trouve évidemment les livres à la bibliothèque, et d'avoir des auteurs et de pouvoir partager en fait leur aventure sur ce chemin de l'écriture, je trouvais très intéressant pour nos lecteurs.
Alors, une rencontre avec deux auteurs, Émilie Amé-Cornu, on en parlera en fin d'interview avec vous, Marisol, et vous-même, Olivier Leclerc. Vous avez publié il y a un mois, sauf erreur, votre premier livre. Il s'intitule « I'm a boy from Liverpool ». Alors, avant de se plonger dans le livre, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture de ce premier roman ?
C'est une idée qui trotte depuis plusieurs années, on va dire, avec toujours ce syndrome, c'est mon syndrome de la page 30. À chaque fois, m'arrivait de jeter bêtement les 30 premières pages en me disant « c'est pas bon, je vais pas y arriver ». Et un jour, ça a pris, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit peu plus de temps à disposition, ou tout d'un coup, des idées nouvelles. C'est aussi à force de lecture, je me suis dit « tiens, pourquoi pas essayer une fois de faire comme mes écrivains fétiches, d'essayer d'approfondir vraiment le projet ». Et donc, c'est comme ça que c'est venu.
Et le résultat est là, le livre devant nous. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ?
C'est l'histoire d'un Montaisan, on va dire un trentenaire Montaisan qui n'a pas une vie extraordinaire, qui travaille, qui lui permet de vivre. Il vient de quitter le foyer, on va dire, de ses parents. Et il zone un petit peu en ville les week-ends, la semaine. Et tout d'un coup, il décide de partir en vacances, de se changer les idées. C'est pas trop un adepte des grandes vacances, mais il se met à rêver de sable fin, de météo clémente, on va dire, en ce mois d'octobre. Et il se prend l'idée de partir en vacances subitement, prendre un last minute, parce que bien sûr, il fait tout à la dernière minute.
Et puis, il va atterrir finalement à Liverpool ?
Oui, ça se passe pas comme il veut. Réservation de dernière minute qui ne se déroule pas comme prévu. Et je ne veux pas trop en dire plus, parce qu'après...
C'est-à-dire, il faut donner aux auditeurs l'envie de lire cette immersion de ce jeune Valaisan dans un endroit qui lui est inconnu. Comment vous avez procédé pour l'écriture ? Ça vient totalement de votre imaginaire ? Vous avez un lien particulier avec Liverpool ? Comment ça s'est passé ?
On va dire un lien particulier avec Liverpool ? Non, pas forcément, mais... C'est vrai que ça fait partie des endroits que j'aime bien, en tout cas en Europe, notamment les îles britanniques, que ce soit les différents pays qui la composent. Mais non, ça m'est venu comme ça, de différents voyages, d'expériences. Après, ce qui lui arrive, à part, on va dire, les choses un petit peu trop glauques, mais autrement, toutes les visites et tout, oui, c'est des visites que j'ai faites, et c'est pour ça que j'en parle avec une précision moyenne, on va dire, quand même. Mais oui, c'est des endroits que j'ai déjà visités, ouais.
Alors, écrire un roman, a fortiori, quand c'est le premier, c'est un long chemin, ça vous a pris un an environ. Le processus de création, comment ça s'est passé ? Vous avez eu de gros défis. C'est quand même compliqué, écrire un roman.
Oui, alors c'est pas forcément super simple, parce qu'on se dit toujours qu'on écrit comme on a envie, mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut dire que j'ai été quand même bien aidé par Joachim Turin de Murat, qui en est pas à son premier pour sa part. Il en a déjà fait quelques-uns dans la région, donc il m'a donné des petits coups de pouce. Il m'a donné quelques contacts aussi, et puis aussi j'avais aussi des feedbacks avec Marisol et la bibliothèque de Viona, qui m'ont aussi bien écouté lorsque j'avais des doutes ou des questions, qui m'ont aussi bien rassuré.
Des conseils de l'entourage, de la bibliothèque, de Monsieur Turin. Pourtant, les écrivains et écrivaines, ils ont quand même leur propre manière d'écrire, hein, leur plume un peu singulière. La vôtre, c'est laquelle, si vous pouvez décrire votre style d'écriture?
Ça fait déjà drôle de parler de style d'écriture, mais alors c'est plus dans l'action, on va dire, où c'est vraiment l'instant présent. Tout se passe au présent, donc c'est vraiment, on est en immersion avec la personne. En fait, il raconte ce qu'il voit à l'instant présent, donc il n'y a pas de passé ni de futur. C'est vraiment, on va dire, un peu comme dans une série Netflix, ces caméras embarquées. On est un petit peu dans ce style-là.
Ça, c'est à titre personnel, on va dire. Je regarde beaucoup les titres de livres. Est-ce que ça a été une évidence pour vous dès le début, ou il vient par après, en écrivant les dernières lignes du bouquin? I'm a boy from Liverpool, le titre en quelques mois.
Comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de ce personnage qui va un petit peu à contre-cœur dans cet endroit-là. C'est pas là-bas qu'il s'imaginait passer ses vacances. En allant à contre-cœur, au fil de l'histoire, il se rend compte qu'au final, bah oui, tiens, ça va devenir un enfant de la région, et qu'il va peut-être trouver son, entre guillemets, son endroit sûr, son endroit à lui, qui va tout simplement devenir, comme le dit le titre, un enfant du coin, quoi.
I'm a boy from Liverpool, c'est un livre à découvrir ce soir en soirée littéraire à la bibliothèque de Viona. Marisol Mario, une autre autrice sera présente ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes qui est-elle et qu'est-ce qu'elle présente?
Nous aurons aussi Émilie Amécornu qui a écrit Libre et léger comme des papillons. C'est un livre totalement différent parce que le livre d'Olivier est un roman, je qualifierais d'un roman social, et le livre d'Émilie est un témoignage. On retrouve en fait 12 témoignages qu'Émilie nous partage avec sa sensibilité, son ressenti, sa bienveillance, son humanité, mais surtout son pathos. Et c'est des témoignages par rapport à son activité qu'elle fait depuis 5 ans. Donc elle est accompagnatrice de personnes pour le suicide accompagné.
Émilie Amécornu et Olivier Leclerc, du coup, sont à découvrir ce soir, et leur livre également. Comment la soirée, pour celles et ceux qui seraient intéressés à participer, comment elle sera articulée, cette soirée?
La soirée se déroulera en interview croisée entre les deux auteurs. La modération se fera par ma collègue Thérèse. Et puis, à l'issue de la rencontre, il y aura bien sûr les questions des personnes présentes, et puis les dédicaces et un verre de l'amitié.
À noter que cette soirée littéraire débutera à 19h30 ce soir à la bibliothèque communale de Viona. Entrée libre.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Bon, aujourd'hui, on souffre un petit peu des aléas du direct. Notre invité n'est malheureusement pas arrivé ici. Je pense qu'il veut pas sortir parce qu'il fait trop froid. Et je le comprends parfaitement. Du coup, c'est moi qui suis sorti. Et là, je me trouve à Morgin à l'occasion du Tour du Chablais, 4e étape. La course des mini est déjà terminée. Et là, c'est gentiment la course des écoliers qui va commencer. Alors les enfants, vous êtes sur Radio Chablais, comment ça va?
Yeah.
Il fait froid, hein?
Oui.
Du coup, on va courir plus vite pour avoir chaud? Et à part ça, vous êtes magnifiques, tous de la même couleur. On va faire un truc, c'est que quand vous revenez après, vous revenez vers moi pour me donner votre temps, ça marche?
Ok.
Ouais, un peu moins déjà. Courez, profitez, amusez-vous, et on vous retrouve à la sortie. Sinon, ici, j'ai mon cher speaker ici à côté, Sébastien, Imesh. Dis donc, ils sont courageux, ces petits.
Ils sont à fond. Et quand je vois le temps, la température, chapeau à eux, parce que franchement, ils sont super motivés.
Alors pour expliquer, il neige, et pas qu'un peu, et il neige depuis 4h l'après-midi. Donc il neige depuis un moment, il fait monstre froid. Toi qui as des gants, t'es gelé.
Oui, on est en direct là?
On est en direct.
Pardon, excusez, faut pas trop que je dise de bêtises alors. Oui.
Oh, t'es avec moi, tu peux.
Oui, alors effectivement, il neige. Et quelqu'un me posait la question avant, c'est quand la dernière fois qu'il a neigé sur une étape du Tour du Chablais? Ça doit faire vraiment je sais pas si c'est possible, si c'est déjà arrivé une fois en fait.
Arrête, t'es sérieux?
Ouais.
Donc on est en train de vivre une grande première potentiellement?
Voilà, mais comme j'ai dit avant, le soleil dans nos cœurs, il fait toujours beau autour du Chablais.
Ouais, et en plus on sait que c'est dans l'effort que la récompense est plus belle. On souhaite un heureux et vraiment une bonne course à tous ces bambins. Et après, ce sera au tour des adultes. Là tout de suite, on va faire une petite pause et on va revenir juste après.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Vadé Rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
On est toujours en direct de Morgin à l'occasion de la quatrième étape du Tour du Chablais. Et il fait froid. Je suis avec Cyril. Cyril, tu es un coureur. Salut.
Salut.
Toi, tu t'habites pas ici. Tu es morginois?
Je suis à Trentoran, ouais.
Tu es à Trentoran, mais t'habites où en ce moment?
San Diego.
T'es venu exprès pour la course ou bien?
Pas tout à fait, mais presque, ouais.
Il fait quel temps à San Diego maintenant? Fais-nous rêver.
Ouais, il va faire 28, ce gros soleil.
Ah ouais?
Super, quoi.
Toi, t'es venu vraiment pour l'amour du sport et de la famille, j'imagine, un petit peu aussi. T'as de la famille dans le coin?
Exactement, ouais. Moi, j'habite, j'ai grandi ici jusqu'à mes 20 ans, ouais.
Et puis, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette course précisément aujourd'hui avec les pelleux qui sont en train de tomber parce qu'il neige?
Moi, j'avais fait cette course depuis 2002, quand j'avais 12 ans, puis après quasiment toutes les années jusqu'en 2012, je pense. Donc, vu que j'étais dans le coin, puis que ça. Par pure chance, bah, je me suis dit, ok, pourquoi pas.
Un petit souvenir en fait de l'époque où tu étais plus jeune et puis où tu faisais cette course, t'en ratais pas une en fait?
Oui, exactement, puis j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont là aujourd'hui, on est au moins 4 ou 5 à courir.
Arrête, donc c'est un truc qui se fait en famille aussi?
Ouais, entre les cousins, la copine de mon frère, tout ça quoi.
Et puis c'est quoi l'ambiance justement que pour les coureurs en fait? C'est quoi, qu'est-ce que vous avez comme sensation de courir à la maison et puis de se faire plaisir comme ça?
Bon, ça fait un moment que j'ai pas couru à la maison, donc ça fait plaisir de revenir faire cette course. Sous la neige en plus, j'aime bien la neige, donc c'est...
T'es servi ce soir?
Exactement, ouais. Non, mais je fais pas mal de courses à San Diego aussi, puis j'aime bien cette ambiance de courir avec du monde autour, et puis...
Et puis c'est quoi le truc? À chaque fois qu'il y a une course, c'est quand même la fête. On vient faire du sport et puis on fait quand même la fête. C'est quoi ce délire?
Ouais, bah comme j'ai dit, il y a du monde, il y a la famille, on veut se donner un peu, mais on fait... Après, c'est aussi pour être avec des gens, et puis discuter... Voilà, et puis voilà, passer un bon temps après la fête, après la course aussi.
Bah c'est parfait. Cyril, je vais te laisser continuer à te chauffer parce que je veux pas que tu refroidisses avec la température qu'il fait. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous pour cette petite interview. Et puis sérieux, force à toi.
Merci beaucoup.
Allez, bonne course à tout le monde. Sérieux, ils sont courageux. Il neige de plus en plus, les amis. C'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Et les gens, ils ont quand même le smile. Ils sont là vraiment volontairement. Tu vois qu'ils sont pas obligés. Et ben, moi, je salue cette prestation-là parce que rien que le fait de dire aujourd'hui, je sors de la maison, ça mérite une médaille. Ils en méritent tous au moins, et toutes au moins des dizaines. Des plus petits, parce que je rappelle qu'il y a eu des courses mini. Il y a eu des courses écoliers qui viennent de partir. Et ce sera bientôt le tour aux adultes. Bref, là, on a gentiment terminé cette deuxième partie et on va profiter de ces flocons qui nous tombent dessus et de ce moment unique de la neige autour du Chablais. À ce qui paraît, c'est la première fois.
Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
La drame, autrefois appelée la dramatique, propose une création 2024 à elle. Stéphane Gabiou, bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane Gabiou, déjà juste rappeler quand même, parce que moi j'adore l'histoire, que la Drame, c'est une des plus vieilles sociétés aiglonnes.
On peut le dire, on a fêté nos 100 ans il y a 2 ans, donc c'est une vieille dame mais qui se porte bien. À 102 ans, je peux vous dire qu'elle se porte toujours très bien.
Alors justement, 102 ans d'existence, la Drame qui propose une création qui s'appelle « Homme ». Expliquez-nous cette création.
Alors pour tout vous dire, on s'est intéressé aux femmes il y a une dizaine d'années, c'était un gros travail déjà, hein. Et 10 ans plus tard on s'est dit mais pourquoi pas s'intéresser une fois au masculin, et c'est ce qu'on vous propose effectivement dans ce spectacle qui est rempli de petits sketchs, de petites scénettes autour de voilà la figure de l'homme. Aujourd'hui en 2024, c'est parfois un peu compliqué d'être un homme parce qu'on peut plus être le gros macho sur son piédestal qui a tous les droits et notamment sur les femmes. Heureusement, la société a beaucoup évolué et donc on s'interroge un peu sur la place de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui en 2024? On le fait avec, je vous rassure, beaucoup d'humour, mais aussi pas mal de poésie.
Alors, justement, poésie et humour, pour amener un sujet qui est effectivement sensible, il y a un changement rapide de notre société dans tout, et justement, dans la position masculine, on doit, les hommes, retrouver aussi un peu notre place, exister dans tout ce qu'on a envie, parce qu'on aime aussi, nous, ce monde-là, si on le présente comme ça, c'est de cette manière-là, mais on doit exister.
C'est ça, exactement. Et donc, on a, sur scène, pendant ce spectacle, régulièrement, des hommes qui viennent un peu, voilà, nous partager avec nous ce côté un peu genre, bon, et qui est-ce que je suis vraiment, et qui est-ce que j'ai le droit d'être en tant qu'homme, est-ce que j'ai le droit encore de faire ça, d'être justement un petit peu macho, un peu avoir de la testostérone, mais en même temps je dois être très sensible, je dois être un très bon père, je dois être un bon amant, je dois être un bon mari, je dois être un bon grand-père aussi. On a aussi un sketch qui raconte cette relation entre un grand-père et sa petite fille. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des comédiennes, donc ça veut dire qu'on a des personnages féminins qui apparaissent, et là c'est aussi un peu la même chose. C'est dans le fond, les femmes, comment est-ce qu'elles se positionnent par rapport à nous les hommes d'aujourd'hui 2024, comment est-ce qu'elles arrivent à tisser peut-être une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être avec les hommes.
Alors comme c'est une création, on va justement parler de cette création, puisqu'on imagine que les dames ont donné leur point de vue dans cette création, on va le présenter d'ici quelques instants. Juste rappeler, ce spectacle, c'est en plus dans un caveau magnifique au cœur de la rue de Jérusalem à Aigle. On est dans un lieu là aussi chargé d'histoire et qui en impose quand même.
Oui, c'est assez magique comme lieu. C'est l'ancienne génération dans le fond de la Drame qui avait trouvé ce lieu, qui l'a transformé pour en faire un lieu absolument magique, vous le dites Cyril, dans lequel on adore accueillir notre public. Ça fait maintenant bientôt 50 ans que ce lieu vit grâce au théâtre et grâce à ce qu'on peut proposer dans nos spectacles.
On rappelle donc cette création de la Drame Homme avec un astérix, il faut le rappeler, ladrame.ch. C'est du 25 avril au 5 mai à 17h. Toutes les réservations ladrame.ch ou au 076 735 42 52. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant. On se retrouve ici quelques instants.
À tout à l'heure. C'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur le grill.
Homme avec un astérix, c'est la nouvelle création de la Drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi à 20h, les samedis à 19h et les dimanches jusqu'au 5 mai à 17h, ouverture des portes et du bar, 30 minutes avant la représentation. On le disait il y a quelques instants, c'est au magnifique caveau de la Dramatique à la rue de Jérusalem, à aigledradrame.ch pour toutes les infos. Stéphane Gabion, on continue justement à parler de ce spectacle Homme avec un astérix. Pourquoi cet astérix?
L'idée, c'est probablement de se dire qu'il n'y a pas qu'un type d'homme aujourd'hui et que derrière l'astérisque, on peut voir cette diversité du masculin aujourd'hui. On avait envie un peu de mettre ça en avant. Et puis, on s'est beaucoup amusé. Là, c'est surtout les filles de la troupe qui se sont amusées notamment à écrire un sketch qui s'appelle La Métamorphose, dans lequel elles imaginent ce que ce serait d'être un homme pendant 24 heures. Donc, elles se retrouvent dans un cabinet d'un thérapeute qui offre ça. Et donc, mesdames, pendant 24 heures, vous allez pouvoir vous retrouver dans la peau d'un mec, en fait, d'un homme. Et qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant que femme? Qu'est-ce que je souhaiterais être comme genre de mec si j'avais 24 heures à disposition?
C'est très sociologique hein, comme spectacle. C'est hyper intéressant parce que, justement, les femmes ont pu enfin s'émanciper. Les femmes existent de plus en plus et de la plus belle des manières dorénavant. Mais maintenant, justement, l'homme, c'est le but de ce spectacle, doit trouver sa place au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes de la troupe? Et comment elles écrivent? Parce qu'elles ont toutes aussi des avis différents.
Moi, je pense qu'elles sont très sensibles au fait que aujourd'hui, les hommes, ils ont effectivement peut-être développé davantage de sensibilité, davantage de peut-être de modestie. On disait tout à l'heure, voilà, ils sont peut-être redescendus de leur piédestal. Et je pense que les femmes, j'ai l'impression qu'elles aiment ce nouvel homme aujourd'hui et qu'elles nous encouragent à aller dans cette voie. Mais en même temps, elles sont toujours titillées un peu par peut-être la force tranquille qu'on peut exprimer nous les hommes. Et elles recherchent aussi ça. Alors, est-ce que j'ai encore le droit aujourd'hui, en tant que femme, d'aimer des hommes qui sont un peu machos, un peu virils, etc. Donc, on a un sketch, par exemple, qui raconte ça, dans le fond, d'une femme qui dit, mais attends, moi, je sais que normalement, je suis plus censée aimer ce genre de caricature de l'homme, mais en même temps, je suis quand même un peu attirée. Donc, comment est-ce que je peux, aujourd'hui, en 2024, avancer avec tout ça?
C'est sociologique en même temps comme spectacle. Vous le traitez avec poésie, avec beaucoup d'humour, donc on va passer un très très bon moment. Et en même temps, forcément, on va réfléchir un petit peu à la position de lui ou d'elle, de notre relation, ou même pas, même en tant que célibataire.
Exactement. En fait, le but, c'était effectivement, vous dites Cyril, c'est sociologique, on a l'impression que c'est un peu intellectuel. Nous, on voulait pas ça. On voulait qu'on rigole beaucoup, qu'on soit touché aussi, qu'il y aura de l'émotion, il y aura de la poésie, mais qu'on ressorte avec, dans le fond, des réflexions. Qu'on partage un petit peu, qu'on brasse un petit peu toutes ces idées autour du masculin, du féminin aujourd'hui, mais effectivement plutôt dans une bonne humeur.
Dans de la bonne humeur, en passant un très très bon moment, et c'est le meilleur moyen de peut-être se lâcher et d'échanger. On rappelle, Homme avec un astérix, c'est la création de la Drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi, c'est à 20h tous les jeudis et vendredis, les samedis à 19h et les dimanches à 17h jusqu'au 5 mai. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant la représentation dans le magnifique, on le répète, caveau de la Dramatique à la rue de Jérusalem à Aigle, ladrame.ch ou le 076 735 42 52. Plein succès à vous, Stéphane Gabion, merci.
On prend, c'est très gentil. Merci Cyril.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde, c'est toujours Colombet. On sort du monastère des Bernardines, on profite de cette quiétude, il y a les oiseaux qui piaillent. Il fait bon, il fait frais, il a failli neiger ce matin, mon très cher guide Emmanuel.
Effectivement, la météo n'est pas à la hauteur de nos espérances, je dirais, voilà, ce matin.
Il y avait de la neige mélangée à de la pluie ce matin chez vous quand je suis arrivé. Et on est le 18 avril, tout va bien. Bon, on va donner envie aux gens de venir au nombril du monde ici à Colombet. Qu'est-ce qu'on a comme activité ou comme événement à ne pas manquer ?
Alors, je dirais qu'il y a toujours les activités sportives. Si quelqu'un veut s'établir dans la commune, je pense qu'il y a toujours un club sportif qui est à sa dimension, à ses attentes. À part ça, il y a toujours des clubs culturels, enfin des sociétés culturelles, les fanfares, les chorales. Chorales qui ont des niveaux assez intéressants. Et puis, à part ça, il y a une commission culturelle de Colombet-Murat qui fait toujours une série d'événements sur la commune chaque année, très éclectique, c'est très intéressant, de beaux événements. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire déjà à Colombet-Murat.
Donc là, on peut aller regarder colombetmurat.ch.
Oui, et puis sur le site de la commune, il y a tous les événements qui sont écrits normalement.
Et là, c'est vrai que la commission culturelle ici, elle bosse pas mal. Hein,
ah, je trouve qu'elle fait un joli travail, effectivement. Vraiment des choses très éclectiques dans tous les domaines, cinéma, concerts, spectacle comique, etc. Donc bravo à l'équipe. Là.
Et puis la fête au village, c'est quand ici ?
La fête au village, normalement, c'est vers la fin août. J'ai pas la date précise en tête, j'ai un petit peu honte, mais allez sur Internet, vous trouverez. Mais c'est lieu de rendez-vous des vieux colombérous et des gens qui apprécient le vin, puisque chaque fois qu'il y a la fête au village, il y a Viti Colombet avec une quinzaine d'encaveurs, tous plus intéressants que les uns que les autres. Peut-être que les derniers, on arrive moins à se rendre compte de la qualité du vin, vu les dégustations précédentes.
Et puis sinon, il y a aussi de quoi se balader par ici, parce que le bois des Fauges...
Alors, le bois de Fauges, je dirais plutôt, moi...
En patois, oui.
En langage de Colombet, le Fauges. Alors oui, il y a tous les chemins en dessus du village de Colombet, sur la route du sentier des blocs erratiques, qui est intéressant. Et c'est toujours intéressant de voir les murs de soutènement sur ces chemins, qui nous rappellent justement que les chariots arrivaient dans ces forêts. Puis maintenant, on peut monter en altitude, on a des Mayens, on a également la pointe de Bellevue, et puis des sentiers pédestres qui nous y mènent, et qui sont absolument splendides. Et si vous aimez la montagne, il y a le sentier qui fait l'arrêt de Préfleury. Vous partez du restaurant de Chalet-Neuf. Vous avez une boucle qui dure à peu près 2h30 et qui passe par l'arrêt de Préfleury, la Combe de Dreveneuse. Vous remontez ensuite sur la Croix de Bellevue. Vous redescendez sur le restaurant de Chalet-Neuf. C'est une petite balade qui est absolument superbe avec beaucoup de paysages différents sur 2 heures de marche. Splendide. Mais un petit peu aérien quand même, suivant les endroits.
Va et découvre ton pays, c'est exactement ce qu'on vous propose tous les matins. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots. Alors que tous les maladroits et maladroites se rassurent, je ne vais pas parler de vous dans cette chronique, ou très peu du moins. Ce sera principalement pour la deuxième heure. Aujourd'hui, en fait, c'est de l'animal dont on va parler. Alors, première des choses, ne pas confondre les pingouins avec les manchots. Déjà, ils ne sont pas de la même espèce. Et puis, les pingouins, ils ont des ailes et ils peuvent s'en servir, contrairement aux manchots qui ne volent pas, malgré le fait qu'ils ont des ailes. Et donc, même si cette journée en anglais s'appelle World Penguins Day, ben c'est bien des manchots dont on parle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les manchots sont en voie de disparition. La banquise continue de fondre et ça fait énormément de dégâts sur l'écosystème. Alors, pour faire court, il n'y a pas que ça. Il y a à cause du réchauffement climatique, à cause de la surpêche ou encore à cause de la pollution marine, il y a 11 espèces sur 18 qui sont menacées d'extinction au jour d'aujourd'hui. Et cette journée mondiale, eh ben du coup, elle sert à mettre en lumière toutes les nombreuses menaces qui pèsent sur les manchots et qui les obligent à s'éloigner de plus en plus des lieux de nidification pour aller chercher à manger. Et du coup, aujourd'hui, on met en lumière les différentes choses à mettre en place pour sauver les manchots de l'extinction. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un peu déprimant comme news de bon matin. Donc, revenons à ma question improbable initiale pour cette chronique. Pourquoi est-ce que les manchots sont maladroits ? Alors, de ce que j'ai pu comprendre de mes petites recherches, c'est parce que sur Terre, ils sont pas méga agiles. En fait, ils se dandinent en marchant, ils gardent les ailes ouvertes pour essayer de garder l'équilibre. Ils donnent vraiment l'impression d'une grosse maladresse. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos de manchots qui marchent. J'avoue, c'est assez drôle. Mais je trouve qu'on dirait vraiment qu'ils titubent comme s'ils rentraient de soirée à marcher avec les bras écartés pour garder l'équilibre ou se protéger d'une chute éventuelle. Alors du coup, maintenant que j'y repense, je sais pas si je dois rire ou être vexée qu'on m'ait traité de manchotte durant toute mon adolescence. Mais si c'est votre cas, eh bien, restez bien à l'écoute parce que dans la deuxième heure, on va déconstruire ensemble cette image de maladroit inconditionnel liée aux manchots. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzarons, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais.
Alors, dans la première partie d'émission, on a parlé des manchots et de pourquoi ils sont considérés comme maladroits. Alors, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, c'est parce que les manchots ne sont pas très adroits sur Terre. Ils titubent en marchant et doivent garder leurs ailes ouvertes pour garder l'équilibre. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots et j'ai décidé de déconstruire ce mythe parce que même si les manchots sont des oiseaux qui, sur Terre, ont l'air d'être dans un état d'ébriété constant, ils sont en revanche méga habiles dans l'eau. Alors déjà, ils sont capables d'atteindre des pointes de 30 km/h et puis ensuite, ils détiennent le record de la plongée la plus profonde, donc 564 mètres, et de celui de la plongée la plus longue, près de 28 minutes. Est-ce que vous en connaissez? C'est beaucoup des maladroits qui sont capables de telles prouesses. Moi, qui suis maladroite de profession, si j'essaye de nager vite, il y a des chances que j'éborne ceux qui sont autour de moi, que je frappe du pied la mamie qui nageait derrière moi et que je finisse par me casser la tête sur le bord de la piscine. Enfin bref. Et le dernier truc, c'est que le papa manchot est capable de garder l'œuf ou le poussin dans un pli sur sa patte pendant plusieurs semaines s'il n'a pas pu trouver de la place pour construire le nid ailleurs. Moi, je suis incapable de rester en place pendant plus de 5 minutes et je finirai probablement par m'asseoir sur l'œuf parce que j'ai oublié qu'il était là. Tout ça pour vous dire, les manchots sont un peu maladroits sur Terre, mais uniquement quand ils se déplacent. On peut donc affirmer que les manchots sont des maladroits à temps partiel et que si on vous a déjà traité de manchot à cause de votre maladresse, ça veut dire que vous l'êtes seulement qu'à moitié et c'est déjà ça de prix. Voilà, voilà.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
12h30 sur Radio Chablais, l'heure de Plan Large. Et dans Plan Large aujourd'hui, Florian Barbet rencontre le vigneron et ancien syndic d'Yvorne, Philippe Gex, pour parler entre autres choses du projet Yvorne Grandeur Nature. Il faut noter que cet entretien a été enregistré avant que le gel ne s'abatte sur les cultures du Chablais. Vous l'entendrez dans l'entretien, Philippe Gex évoque ce risque saisonnier et s'en inquiète. Depuis, ce risque est devenu réalité puisque les derniers jours ont lourdement pesé sur les vignes de la région.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Philippe Gex.
Bonjour Florian.
Vous m'avez donné rendez-vous à Yvorne. Et d'Yvorne, on a pris une voiture pour aller dans un de vos vignobles, le fameux...
Clos du Creuset-Grillé.
Voilà, et lui, il est à Aigle. Hein.
Il est à Aigle, mais comme on le dit pour le château Yquem, on est contigu Yvorne.
Contigu Yvorne. Ça, c'est un argument marketing.
Ah, naturellement.
C'est un peu votre vin de prestige. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de la Pierre Latine, qui est votre domaine. Ah, oui. Mais il n'est pas d'Yvorne.
Il n'est pas d'Yvorne. Aigle est une appellation, et probablement l'appellation qui marche le mieux dans le Chablais, pour, à cause d'un vin dont on taira le nom, mais que chacun reconnaît à cause d'un fameux lézard. Voilà. Et puis ce Clos du Creuset-Grillé est fameux parce qu'il est extraordinaire sur le plan géographique, extraordinaire sur le plan d'exposition. Et puis avec ce domaine, on fait partie de la mémoire des vins suisses qui répertorie les plus beaux domaines dans chaque région.
Donc ça, c'est un catalogue finalement des meilleurs terroirs.
Ouais, c'est des journalistes suisses-alémaniques historiquement qui ont décidé de lister dans le fond de chaque région un ou deux vignobles. Et nous faisons partie des deux vignobles du Chablais avec le Clos du Crozet-Grillé qui font partie de la mémoire des vins suisses.
Et Yvorne, parce que vous dites Aigle est l'appellation qui se vend le mieux. Yvorne, c'était quand même la carte d'identité en Suisse-alémanique, notamment.
Tout à fait. Yvorne est un vignoble prestigieux et qui a encore une certaine renommée. Mais Aigle, depuis des générations, et grâce à la maison dont on tiera le nom.
Ouais, je peux la dire, Badou.
Oui, c'est Badou, bien sûr, qui a positionné Aigle sur la carte des vins suisses à cause de son fameux vin, le Lézard, qui a une notoriété nationale, évidemment, mais mondiale aussi, parce que c'est un des seuls vins qu'on retrouve à New York ou à Shanghai. Ce qui fait qu'Aigle est aujourd'hui, dans le Chablais, probablement l'appellation la plus demandée.
Bon, on va parler de Yvorne Grandeur Nature, hein, ce projet ambitieux, lancé il y a quelques années, on va voir où on en est. Avant ça, on revient un peu sur vous, Philippe Jex, vous avez abandonné la politique, j'ai regardé, ça fait presque 10 ans maintenant.
2015, exactement. Ouais.
Ça vous manque ?
Pas du tout, mais vous pouvez me poser une deuxième question, Florian.
Non, c'est comme Roger Federer, ça vous manque l'US Open ? Non, ça va. Non, mais bon, c'est un bon souvenir quand même.
Oh, excellent souvenir. J'ai adoré être syndic d'Yvorne et j'ai adoré ne plus l'être.
Bon, on va garder cette réponse philosophique. Vous êtes recentré sur le métier du vin. C'était déjà votre métier avant, évidemment. Moi, quand je vous vois et je vous rencontre, j'ai toujours l'impression que vous êtes dans ce terroir vaudois, la personne de référence. Vous êtes le couteau suisse, vous connaissez tout le monde. En Suisse, à l'étranger, les grands domaines, vous exportez, vous avez fait quelque chose pour ce vin vaudois de tout à fait considérable. Je le dis, vous allez faire le modeste, mais
je vais pas le faire. Je vais le dire. Ouais. Hein. Non, mais vous savez, Florian, un peu grâce à la commune, j'ai été syndic assez longtemps, j'ai eu des activités, j'étais gouverneur de la confrérie du Guillon, j'ai été juge au tribunal des mineurs, j'étais président de Terre à Vin, enfin bref, toutes ces diverses occupations que j'ai occupé pendant, je ne sais pas, 25 ans, ont créé effectivement certains réseaux dans tous les domaines, que ce soit politique, viticole, journalistique, qui aujourd'hui on donne quelques résultats, parce qu'on connaît les gens. Évidemment, quand on connaît les gens, et comme vous le savez, tout est plus facile.
Oui, mais quand on a un réseau, on peut l'utiliser pour soi, on peut aussi comprendre, et on en tire bénéfice forcément, mais que l'union fait la force, et qu'il faut jouer collectif. Vous êtes parti dans tous les pays du monde pour faire la promotion des vins vaudois, pas de vos vins.
Non, mais bien sûr, mais j'ai toujours pensé que l'important, c'était de boire du vin suisse. Et puis si, par hasard, c'était du vin vaudois, ce serait le Saint Graal. Et puis évidemment, si dans les vins vaudois, on buvait de l'Yvorne et si possible la pierre latine, évidemment, c'était gagné. Mais on est plus intelligent tous ensemble.
C'est l'inverse de la théorie à qui je ne donnerai pas de paternité, mais qui est assez classique. Hein. Je préfère mes voisins aux gens de ma ville, les gens de ma ville aux gens de mon pays, les gens de mon pays aux étrangers. Là, c'est l'inverse, en fait. Je prends la globalité et puis je sais que, comme individu, je vais en tirer quelque chose.
Mais bien sûr, et c'est dans le fond là, l'origine de ce projet Yvorne Grandeur Nature, qu'on évoquera tout à l'heure. Vous savez, faire des efforts en termes d'environnement sur son domaine personnel, c'est assez facile. On prend les mesures, on décide, on le fait. Le faire sur l'entier d'une appellation, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de convaincre le vigneron par définition. Est-ce que j'ose dire, peut-être comme les pasteurs, comme les agriculteurs, c'est des gens foncièrement indépendants qui n'aiment pas trop qu'on leur force un petit peu la main. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est évidemment plus intéressant quand on est tous ensemble.
Quand on est ensemble pour le faire. Bon, les vins suisses, hein, vous disiez, c'est plutôt pas mal de boire des vins suisses. On a toujours ce problème hein, du prix par rapport à la concurrence étrangère, de la taille aussi du terroir suisse qui fait qu'on n'a pas les quantités pour abaisser les prix. Le virage de la qualité, maintenant, il est global en Suisse. Il s'est fait en Valais, il s'est fait dans le canton de Vaud. On doit miser là-dessus plutôt que sur la quantité.
Mais c'est la condition de notre survie. J'entends, on ne peut pas régater avec les vins du Nouveau Monde, les vins étrangers produits en grande quantité à vil prix. Donc on est condamné à occuper le sommet de la pyramide. Et c'est assez drôle de voir que finalement à l'export, puisque Florian vous en parliez tout à l'heure, nous exportons nous au Japon et aux États-Unis. Le domaine dans lequel on est aujourd'hui, le Clos du Crozet-Grillé, on va pas aborder d'aspect mercantile, mais si je vous vends une bouteille aujourd'hui, elle coûte 32 francs. À Tokyo, ils la revendent 140. vente. Et ça ne pose pas de problème majeur. Donc on mesure aussi à travers l'exportation de nos vins l'image de la Suisse à l'étranger. Et on a une image, pour l'instant, extraordinairement qualitative.
Mais justement, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif hein, quand on a compris cette théorie qu'on devait miser sur la qualité et la clientèle locale parce qu'on n'a pas les quantités pour faire de l'exportation à grande échelle. C'est tout de même important de garder quelques points d'exportation comme ça pour l'image qu'on vous dit.
Ah mais absolument. Moi j'ai toujours pensé qu'on devrait idéalement exporter 5 à 10 % de nos vins à l'étranger. Pourquoi 5 à 10 % ? Ça permettrait en permanence de soulager le marché suisse. Et le marché suisse est très compliqué. On a vite trop de vins. On en a vite pas assez. Ça a un problème évidemment tout de suite sur les prix, sur les volumes. C'est très compliqué. Si on sortait de la Suisse un certain volume, parce qu'on est toujours, je suis pas tout à fait sur des chiffres, mais je pense qu'on exporte toujours 1 % de notre production ou 1,2 %. C'est tout à fait confidentiel. Donc ça n'a pas d'impact. Si on arrivait à exporter ces 5 ou 10% dans des pays qui sont remarquables sur le plan de l'audience, je pense d'abord à la France, mais c'est vraiment le pays le plus compliqué pour exporter.
Le plus difficile à...
Mais les États-Unis ou le Japon, qui sont friands de nos vins. Je ne sais pas si vous êtes amateur de sushi, Florian, mais avec, toujours, avec oui, des magnifiques sushis, il n'y a qu'un vin qui va bien, c'est le Chasselas. Et à Tokyo, il y a un 3 étoiles, un 3 macarons Michelin qui ne vend que du Chasselas vaudois.
Ouais.
Parce qu'il a découvert ça avec ses sushis et c'est mille fois mieux qu'un vilain traminaire odorant ou un Sauvignon du Sud qui sent la traverse de chemin de fer.
Ou un sac tiède. Non, parce qu'on ne va pas entrer là-dedans. bon, mais il y a quelque chose... est-ce qu'on existe ? Est-ce que les vins suisses existent sur la carte du monde ?
Alors, comment vous répondre le plus honnêtement possible ? Non, ils n'existent pas. Mais si on se le répète à l'envi que nous n'existons pas, évidemment,
on n'existera jamais. Ouais.
On se rend compte assez facilement lorsqu'on va à l'étranger. Moi, je l'ai fait très souvent avec l'Office des vins vaudois, avec Pierre Keller, qui reste dans nos mémoires comme le type le plus formidable que le canton ait connu. Eh bien, on se rend compte qu'à l'étranger, nous avons du succès. Mais il ne faut pas faire le Suisse qui attend que ça se passe les mains dans les poches. Je ne vais pas vous citer une plaisanterie de mon vieux copain Raoul Cruchon à propos des gens qui ont les mains dans les poches, mais néanmoins, c'est ça, on est un peu attentiste, on est un peu mou du genou. Si on fait l'effort d'y aller, de le faire, ça marche assez facilement.
Mmh. Mais il faut investir de l'argent. Ce genre de réaction intéressante et très sympathique hein, qui est hein, l'étonnement,
mais
l'étonnement
oui.
positif, mais c'est
oui.
bien
et puis,
ça.
Je dois avouer que si on va assez loin de la Suisse, je ne vous parle pas des pays environnement, mais si on va aux États-Unis, au Japon, en Chine, l'image de la Suisse est quand même extrêmement flatteuse. On sait que c'est un petit pays, qu'il est montagneux, qu'il y a des coteaux, c'est difficile, on sait que la vie est chère en Suisse. Le consommateur final, il s'attend à payer un certain prix. Alors qu'évidemment, si on va chez nos amis de Savoie qui connaissent la Suisse, etc., ils sont un peu étonnés qu'on vende un Chasselas à 30 francs, alors qu'on peut trouver de modestes vins blancs étrangers à 3 ou 4 francs dans la grande distribution.
Donc il faut garder ces éléments extérieurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait dans le canton de Vaud avec l'office des vins vaudois. Ça devrait être plus large encore. Swiss Wine, ça marche ?
Oui, non, mais il y a des efforts méritoires. Vous avez vu que les chambres fédérales ont admis un crédit supplémentaire pour valoriser l'exportation des vins. Donc ça bouge.
Oui, à chaque fois, on dit que ça correspond à des cacahuètes par rapport au seul crédit que l'Italie offre à ses vins.
Alors, bien entendu, c'est ce que l'Italie met à disposition pour le marché suisse. Les Autrichiens font un boulot épatant en exportation sur le plan privé, mais aussi sur le plan de l'État. Mais il faut arrêter de se plaindre. Je reste un vieux libéral. Je suis pas fou de l'intervention de l'État dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là de l'exportation, je crois que l'État nous soutient à présent efficacement. Mais c'est surtout à nous, c'est de l'entreprise privée. Et puis surtout, si on veut exporter, on doit exporter ce qu'on a de meilleur et pas ce qu'on a de moins bon. C'est comme le tourisme, j'entends. On montre ce qu'on a de mieux. Imaginez d'exporter du Chasselas à 4 francs la bouteille au Japon, ça n'a pas de sens. Il y en a des bien meilleurs et des moins chers.
Bon, on va passer une large partie de la deuxième partie de cet entretien à parler de grandeur nature, mais on va peut-être y aller avec un dernier angle. Hein. On a abordé l'aspect commercial du monde du vin suisse. Il y a l'aspect climatique, environnemental. Vignoble grandeur nature va y répondre. Le climat, ce fameux chasse-là, là, il va tenir combien de temps avec un climat qui se réchauffe?
Alors, écoutez, pour
l'instant, qu'il est parfait pour nos latitudes, ouais. Mais si ça se réchauffe.
Aujourd'hui, il est parfait pour nos latitudes. Il y a des cépages qui sont moins parfaits. Je pense en particulier au Pinot Noir qui a une maturité excessive la plupart du temps. Donc, on doit se poser des questions sur l'encépagement. Pour le moment, le chasse-là est parfaitement idoine sous nos latitudes. Plusieurs raisons, le climat lui convient et surtout dans Chablais en particulier le terroir lui convient, on a un terroir pour le chasselas. Si on devait le remplacer, ce qui sera peut-être le cas dans 50 ou 80 ans, ça sera très compliqué, mais on vit ce changement climatique en direct.
Il y a des vins très bons plus au sud qui pourraient s'adapter ici.
Si vous prenez les augmentations de température, je crois qu'un vin qui est cultivé à Bordeaux dans 10 ans pourrait être cultivé à Lille ou à Bruxelles. Donc on le vit tous les jours.
Les premiers vignobles en Scandinavie, en Angleterre.
Il y a des vins épatants en Angleterre. C'est quand même pas un pays qui est originellement favorable au vin.
Bon, il y aura les Vermentino du Chablais alors.
Non, peut-être pas jusque-là. Moi, je serai plus de ce monde, bien heureusement.
Bon, on va se retrouver, hein, Philippe Jex, d'ici quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler de ce beau projet Grandeur Nature.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Philippe Jex, on se retrouve dans ce vignoble printemps. Ça démarre quand là? J'ai vu les bourgeons. Hein, les bourgeons sont là déjà.
Oui, là, c'est déjà démarré depuis 10 jours. On n'a jamais vu jours. Démarrer aussi tôt.
C'est vrai?
Il y a 15 jours, il y avait déjà des bourgeons dans certaines vignes. C'est tout à fait extraordinaire.
Donc ça veut dire, sauf aléa, on sait que.
Il y a quelques règles. 100 jours après ci, 40 jours après la véraison, 100 jours après la floraison. Mais ça ne faut pas trop y compter. Mais on sait par définition que si ça démarre très tôt, on vendangera très tôt.
Ouais.
Le seul problème qu'on voit, c'est que ça démarre très tôt en mars ou en avril. Et comme on risque de geler jusqu'à fin mai, les vignerons dorment mal pendant quelques semaines.
Oui, là on est dans le. Bah comme les arbres fruitiers d'ailleurs,
exactement,
on est dans ce moment dangereux
moment,
où s'il y a une gelée nocturne.
Ah, c'est cuit là.
Oui.
Ah, c'est cuit là. Ouais. Ouais. On a eu de la pluie, il y a de l'humidité. S'il fait moins 1, moins 2.
Mais il n'y a rien à faire. Parce que dans le Valais central, on voit les bougies, on voit l'arrosage.
Il y a quelques essais, des petites choses comme ça. Aux bougies, dans les plats, dans la plaine, j'y crois, évidemment, ça fonctionne. Dans le coteau, vous savez, vous connaissez le froid,
les airs,
etc. Ouais. Donc je pense que dans le coteau, ça ne sert à rien.
Bon, ça fait partie de l'histoire millénaire de l'agriculture, du vin, c'est le climat.
C'est ce qui rend ce métier
merveilleux.
Il est fait de merveilles et de modestie.
Et voilà, de grandes misères et de beaux plaisirs. Bon, vignoble grandeur nature, Ivorne grandeur nature plutôt, c'est un projet par rapport à ce qu'on disait en première partie, hein, il faut se mettre dans l'époque, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue commercial, en analysant, en faisant une sorte de photographie et en agissant sur un terroir. Et l'originalité de ce truc, c'est qu'on le fait tous ensemble. 2019 lancé.
Ouais, 2019, lancé ce projet. On va pas revenir sur l'épisode du Covid, évidemment, il s'est rien passé pendant une année et demie pour les raisons qu'on
sait pas. Parce qu'en 2019, on disait 4-5 ans et
on
y est.
Oui, c'est toujours 4-5 ans, mais on peut considérer dans le fond que le projet a démarré en 2021-2022, ouais. Effectivement, avec la Haute École de Changin qui nous accompagne dans ce projet. On a la majorité des surfaces et des vignerons qui font partie de ce projet, qui est dynamique. On a trouvé le financement, comme vous le savez, pour ce projet sur 5 ans. Avec un montant très conséquent qui a été financé par la fondation de famille Mava, la fondation de la famille Hoffmann. Et puis aujourd'hui, on y travaille.
Juste un mot sur cette fondation, la famille Hoffmann, famille de la pharmacie, oui. de la chimie, et qui a œuvré pendant de très longues années, Luc Hoffmann, hein, fondateur de cette fondation, dans l'environnement, à travers le monde entier.
Absolument.
Et c'était un petit peu le dernier projet, parce qu'elle est plus active. Là.
Absolument, c'était, ouais. À ma connaissance, le dernier projet financé par la fondation Mava.
Dans la fondation.
Non, pas des montants comme ça, mais si vous saviez, on ne va pas en parler à l'antenne, ouais. les montants extraordinaires qui ont été versés à travers cette fondation pour la protection de l'environnement dans le monde, ça relativiserait l'impression qu'on a parfois sur les personnes très riches.
Ouais.
Ceci mis à part.
On peut débattre de ça.
Ouais, on peut débattre, ça fait l'objet d'un autre sujet, mais j'ai des choses à vous dire. Et puis, donc, ce projet fonctionne, Changin nous accompagne là-dedans de manière extraordinaire. On a fait comme vous l'avez signalé, en état des lieux au début de ce projet en 2019 avec Raymond Delars qui est biologiste à Hollon et avec son bureau qui a fait un état des lieux pour savoir comment était le vignoble d'Yvorne, ce qui nous a permis
mais de ça faire veut dire quoi, comment était, parce qu'on sait qu'en gros c'est du chasselas et quelques autres cépages.
Oui, mais ça, il
n'a
pas fait l'analyse des cépages, mais l'analyse
c'est
du sol,
le
de l'environnement,
sol,
de, du
les bestioles,
du biotope, de,
les
de,
autres
de,
plantes.
Absolument, ouais. Les autres plantes, les oiseaux, les mollusques, les escargots, les serpents,
le
les arvers. Le bruyant zizi et la linotte mélodieuse, c'est des oiseaux qui nous rappellent quelque chose. Et puis le constat était finalement de se dire, tiens, malgré une culture intensive, le vignoble d'Yvorne est en bon état, avec la périphérie que sont les forêts de la commune d'Yvorne. Et puis sur la base de ce constat, on a pu faire un projet avec Changin, sur un programme sur 5 ans, pour que ce projet... On a toujours utilisé le mot bio qui fait parfois peur. C'est pas tellement l'objectif bio. C'est de mettre en place tous ensemble un vignoble vertueux, respectueux de l'environnement, de la biodiversité. En deux mois, faire le maximum pour l'environnement, tout en ayant à l'esprit que l'entreprise doit gagner de l'argent. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'il faut mettre dans la balance. On peut faire de l'écologie extrême.
Bon, vous dites le mot bio fait peur, mais si des gens comme vous se mettent à l'utiliser,
oui,
il fera moins peur. Vous citez sur le site internet de ce projet que quelques grands domaines très prestigieux dans le Bordelais, etc., se sont mis au bio, à la biodynamie, non seulement pour des idées de vertu, mais aussi pour des idées économiques. Le public change.
Je peux vous donner un scoop. Il y a un fameux domaine en Toscane. Très fameux domaine, peut-être le plus important et le plus connu à l'étranger, qui nous a contacté en fin d'année, le directeur général, pour dire on a entendu parler par une fiduciaire luganaise, je ne sais pas pour quelle raison, on a échangé pendant des heures au téléphone et par vidéo. Il souhaite prendre notre modèle Yvorne grandeur nature pour en faire un modèle dans leur domaine. Pour ne pas le cacher, c'est Sassicaia.
Oui,
c'est quand même pas rien. Et pour nous, c'était assez flatteur, finalement, qu'on fasse office de précurseur, d'explorateur dans ce domaine. Et comme vous l'avez signalé, non pas tout seul sur notre domaine, ça serait fait depuis longtemps, mais tous ensemble. Parce que l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de protéger l'environnement au maximum, puis en même temps d'utiliser ce projet Yvorne Grandeur Nature en termes de communication pour vendre mieux nos vins et plus cher.
Bon, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre les propriétaires, les vignerons.
Mais bien sûr.
Ça, c'est fait. Vous avez quel pourcentage des vignerons d'Yvorne
à peu de choses près en termes de surface. Parce que c'est ça qui est important. On est à près de 80% des surfaces qui sont inscrites au projet Yvorne Grandeur Nature. Mais il y a évidemment quelques résistances que... Je ne perds pas espoir, parce que le constat aujourd'hui en termes d'environnement, je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de grandes discussions. Il n'y a qu'à ouvrir la télé et puis on est au clair. Donc on sait dans quelle direction on doit aller, mais en même temps c'est compliqué. Travailler dans le sens de l'environnement, faire du bio, comme vous le disiez, ça coûte cher, ça produit moins. Dans une époque où le vignoble ne va pas extrêmement bien, et il faut trouver des vignerons qui écoutent ça.
Qui ont le sens de l'aventure.
Qui ont le sens de l'aventure, mais surtout qui voient plus loin que demain. C'est pas aujourd'hui le projet, c'est dans 5, 10 ou 15 ans. Quand on pourra vraiment utiliser ce projet Yvorne Grand Nature pour valoriser nos vins, à ce moment-là, peut-être que les derniers vignerons qui ne sont pas enthousiastes pour ce projet rejoindront le train du futur.
Ouais, moi, ça remue mes convictions démocratiques, votre affaire, là, parce que j'y réfléchissais en venant vous voir et je me disais, En allant discuter, en prenant les gens les uns après les autres, en créant un modèle, on trouve le volontariat. Alors que si on avait fait une votation communale en disant « Est-ce que vous voulez que le vignoble passe au bio ?», ça aurait été refusé quasiment certainement.
Oui, probablement. Mais je peux vous donner différents scoops. Je vous ai parlé de Sassicaia tout à l'heure. Vous savez qu'Yvorne a un vignoble qui est très connu, mais on a également un grand domaine agricole. Toute la plaine du Rhône sur la commune d'Yvorne est cultivée en agriculture. La plupart des agriculteurs de la plaine du Rhône sont déjà en bio et nous ont demandé de rejoindre notre projet. Dès le départ, moi, je n'avais pas souhaité qu'on élargisse à l'agriculture parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué de le faire sur le plan viticole. Mais aujourd'hui, la demande, elle vient des agriculteurs de la plaine qu'on a rencontrés. Il y a une petite commission qui s'est mise en place. Il y a une journée de la biodiversité qui est fixée d'ailleurs
le
au 4 mai,
mai
sauf erreur. Et à l'intérieur de cette journée de la biodiversité, nos amis de la plaine, qui sont agriculteurs, vont y participer largement parce qu'ils sont en tout cas aussi en avance que nous, si ce n'est plus. Alors c'est extraordinaire de voir que dans le fond ça suscite des envies aujourd'hui, et finalement, comme tous les projets, on doit faire envie. Pour vendre une bouteille, il faut faire envie. Pour faire un projet comme ça, il faut faire envie. Les gens doivent avoir envie d'y participer.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour un producteur d'entrer, parce qu'il y a un cahier des charges, hein, c'est pas juste une étiquette marketing, il y a un cahier des charges, qu'est-ce que ça implique?
Alors ça implique un effort personnel, ça veut dire de la part du propriétaire, de la part des collaborateurs, il y a un cahier des charges qui est consultable bien sûr sur
Internet. Élaboré avec Changin d'ailleurs.
Qui est élaboré avec Changin, qui est sur 8 chapitres avec différentes mesures de base, moyenne et plus avancée. On y adhère, on le fait, mais on le fait à notre rythme. Il y a pas, on a voulu faire un projet où il n'y a pas d'interdiction, on suppose que les gens vont le faire de manière enthousiaste. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce projet. Alors, les agriculteurs de la plaine y participent, à présent, c'est formidable. Notre garde forestier qui s'occupe du domaine des agites, enfin, les forêts communales, entre autres, y participent aussi au comité, donc les forêts en font partie. On a un projet global. Je dois avouer parfois que je me demande pourquoi tout le monde ne s'est pas levé spontanément en disant « c'est génial, faisons-le ».
Oui, ben pourquoi ?
Mais parce qu'il y a quelques obligations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Parfois,
on va parler d'un exemple, les produits phytosanitaires, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'en met plus, fait différemment.
Mais il y a des programmes phyto qui sont dans le cadre bio, il y a 1000 solutions. Mais ce qu'on veut, c'est limiter les herbicides, c'est éviter le glyphosate dans la mesure du possible, ouais. Même si ce n'est pas un herbicide aussi épouvantable qu'on a bien voulu le dire. C'est limiter les produits phyto que vous avez évoqués. Il y a plein de solutions, il y a plein de vignerons qui le font. À côté de ma cave, il y a un vignoble qui fait de la biodynamie. Tout va bien. Mais il faut le faire sérieusement. Ce n'est pas un métier de rêveur. J'utilise des fois cette image un petit peu excessive de l'écolo qui a des boucles d'oreilles tout le tour de la tête et des chapeaux en macramé. Il ne faut pas rêver pour faire ça. C'est du travail, ouais. C'est compliqué, c'est coûteux et ça produit moins, en tout cas au départ. Alors, c'est une équation qui est difficile à faire comprendre. Et je comprends parfois mes amis et collègues qui se disent « Attends, c'est déjà compliqué. Si on met encore une couche, ça va être encore plus compliqué. »
Vous m'avez dit être un vieux libéral dans la première partie de cet entretien. Cet écolo avec les sandales en macramé, là, vous lui reconnaissez son utilité de lanceur d'alerte depuis 40 ans. On l'a bien souvent moqué, on l'a ignoré, on l'a combattu. Vous lui reconnaissez ça?
Mais bien sûr, on parlait tout à l'heure d'une conseillère nationale bien connue qui fréquente Montcarnot, si ce n'est assidûment, en tout cas de temps en temps. Évidemment que je comprends ça et j'y adhère. Seulement, il y a le fond et la forme. Et comme libéral, je veux dire, moins d'État, j'aime pas les interdictions, j'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et j'aimerais que les gens adhèrent à ce projet spontanément, volontairement, en comprenant l'intérêt qu'il a à moyen terme.
Bon, c'est là que je faisais la comparaison avec une votation communale. Hein. C'est tout à fait enthousiasmant de voir qu'en effet, on peut entraîner l'enthousiasme plutôt que de demander de décider. Et puis les gens sont un peu tétanisés.
Bien sûr, je peux vous donner encore une information dans le cadre de ce projet Yvonne Grande Nature. Puisque nous sommes. Il n'y a que des scoops aujourd'hui. On gardera les meilleurs peut-être après l'interview. On a dans le cadre de ce projet donc non pas l'aide mais la participation effective et dynamique de la Haute École de Changin. Dans le cadre de ce projet, une des scientifiques qui nous accompagne qui s'appelle Serena Fantasia nous a proposé de faire un travail de doctorat sur le changement climatique dans le cadre du vignoble d'Yvorne. Et ça suppose bien sûr un investissement conséquent sur 5 ans. On a trouvé le financement. Si je vous dis que c'est grâce à André Hoffmann, vous l'aurez compris, bon, mais à titre personnel,
co-président
pour un montant
de ce projet
très conséquent, qui a accepté de financer ce projet pour imaginer ce que sera le changement climatique dans le vignoble. On va monter des petites serres sur certaines parties du vignoble pour imaginer quelle sera la
créer des conditions de plus de température,
de
etc.
De plus de température, ouais. De moins de pluviométrie, et voir comment la vigne réagit au fil des années avec des sondages dans le terrain. Enfin, je vous épargne les détails, c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que dans ce projet, on fait vraiment un travail de précurseur. Travail de précurseur qui non seulement a de l'intérêt pour nous, les vignerons, mais qui a un intérêt national et international, puisqu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui se disent « Non, ça bouge quand même pas mal à Yvorne, ce petit village méconnu que personne ne connaît. »
Ouais, en tout cas, ça fait envie, hein, ce que vous nous racontez, plus dans cette idée d'une profession qui prend les devants, hein, plutôt
Absolument.
Que de voir arriver quelque chose qui s'annonce, pas
on
joyeux.
On n'est pas attentif, on essaie d'être un peu proactif.
Bon, je reviens un peu à la faune. Hein. Il y a aussi, c'est un complet retourner, hein, plutôt que d'atomiser au napalm toute espèce vivante qui pourrait risquer de faire du mal aux raisins, on essaye de sauver les petits, les tout petits animaux qui sont là.
Absolument. Et d'ailleurs, on l'a appris avec Raymond Delarze, un des marqueurs de la biodiversité, c'est les mollusques. Alors nous, on voit les gros escargots qu'on mange de temps en temps dans nos assiettes, mais il y a tout le reste qui sont des marqueurs. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a aussi institué ce système de biotopes. On souhaite qu'à moyen terme, il y ait 200 petits biotopes à Yvorne. Des biotopes de 20, 40, 50, 100 mètres carrés, tout petits, mais qui sont des relais de biodiversité. Vous êtes encore un peu jeune, Florian, pour vous rappeler le vignoble d'Yvorne, il y a 50 ou 60 ans. Il y avait des cerisiers, il y avait des pêchers de vignes, il y avait toutes sortes de choses. On avance rien.
Ça m'amène une conclusion, parce qu'on arrive au bout, mais c'est ça. Moi, je trouve ça dingue. Chaque fois qu'on est dans l'innovation face à ces questions climatiques, on se dit, faire pour mon enfant, c'est finalement faire comme mon grand-père.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est une chouette conclusion.
On reste là-dessus, et on rappelle cette journée de la biodiversité, hein, surtout le vignoble d'Yvorne.
Samedi 4 mai à Yvorne, où chacun peut s'inscrire et venir, vous serez les bienvenus, en tous les cas pour la visite et peut-être même pour un apéro qui suivra.
Merci à vous, Philippe Jacques.
Merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
C'est pas campé.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, la 5e symphonie de Beethoven. Dirigé par le chef d'orchestre allemand Johannes Furtz von Arsch. C'était la 5e symphonie de Beethoven. Dirigé par le chef d'orchestre allemand, Johannes von der Arsch. Magistral.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de te détendre?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Quanta Riviera propose ce 28 avril un concert, c'est un chœur de jeunes de la Riviera. On en parle avec la chef de chœur, Lydiane de Graffenried. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous raconter brièvement l'histoire de Quanta Riviera.
Oui, volontiers. Elle est assez récente. L'idée de toujours pouvoir faire de la musique avec des gens autour de nous, toujours plus, et puis le côté social d'un chœur est assez important pour moi et pour les deux autres personnes qui ont créé le chœur avec moi, Gaël Mellet et Théa Badou. Et puis nous avons réalisé les trois qu'il n'y avait pas de chœur de jeunes dans la région de la Riviera. On compte vraiment beaucoup de chœurs mixtes de différents styles, mais de chœurs de jeunes qui ont cette particularité-là, il n'y en a pas. Donc nous l'avons créé pour pallier ce manque. Et puis, c'était donc, il y a quelques mois, nous avons trouvé le nom, trouvé une salle et puis appelé les gens autour de nous pour les inviter à se joindre. Et puis, on a commencé les répétitions en septembre pour arriver à ce concert qui arrive tout là bientôt.
Ben ouais, alors on l'a dit, hein, ce 28 avril, c'est à l'église Sainte-Claire à Vevey. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce que vous allez présenter?
Comme premier programme, nous avons choisi plusieurs pièces de divers styles, de façon très éclectique, autant des pièces traditionnelles de quelques pays différents, la Suisse également, avec un peu de romanche, mais aussi des pièces chorales, vraiment écriture chorale, c'est-à-dire qu'elles ont été écrites directement pour des chœurs, en comparaison à des pièces plus chansons françaises ou pop qui, elles, ont été arrangées pour les chœurs. Et donc, on a vraiment un mélange de toutes ces pièces-là, autant jazz que plus classique que même de la Renaissance, etc.
Ouais, le but, c'était de montrer que les jeunes respectent, entre guillemets, la tradition chorale, mais aussi vous amenez votre touche et justement votre énergie et votre jeunesse.
C'est ça, et d'explorer vraiment la grande variété du répertoire qu'on peut faire avec un chœur qui n'est pas cantonné à peut-être un cliché qu'on pourrait avoir de musique d'église et d'un chœur qui chante au messe.
Quanta Riviera, donc c'est ce dimanche à l'église Sainte-Claire à Vevey. Toutes les infos sur quantariviera.ch. Merci d'avoir été avec nous, Lydiane de Graffenried.
Merci beaucoup.
Très bonne journée, à bientôt.
Enfin.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le MAG, c'est une région magnifique avec plein de trucs qui s'y passent et c'est pour ça qu'on te les raconte du lundi au vendredi après le journal de 17h. On commence aujourd'hui par un événement qui fait plaisir aux petits comme aux grands et qui se tiendra cet été. Xavier Borgeot, bonjour.
Hello Loïc. Effectivement, c'est parti, on va dire comme ça, pour la 6e édition du Chablous Festival à Monté, les 9 et 10 août prochains. Donc le parc du Crocheton va se remplir de notes teintées de blues, de rock, de groove. Et le plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des festivaliers, 6 concerts gratuits répartis sur deux soirées feront donc le bonheur des Chablousiens et des Chablousiennes, avec notamment la venue des Belges de Blues Bones, ou encore le duo, on va dire, quasi montaisan de tout, puisque l'un des deux membres du duo habite ici à Monté. Et on parle de cette édition donc 2024 avec un des cofondateurs du Chablous, Pascal Vigolo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, 6e édition, est-ce que vous auriez pensé au début, moi j'ai encore l'image de cette première édition, que ce festival existerait encore, aurait son public et toucherait aussi au fond du cœur des Chablaisiens?
Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question. On va dire que quand on construit un festival, on pense surtout à la première édition et à rien oublier.
Et à pas se planter.
Exactement, ouais. Après c'était je pense dans notre inconscient un rêve assez fou que ce festival perdure. Et puis voilà, c'est vrai que 6 ans après, enfin 6 ans après, 9 ans après, vu qu'il y a eu 3 ans de pause.
Il y a eu quelques pauses
forcées. Neuf ans après, on est toujours là et puis on avance année après année et puis on essaie de faire le boulot le mieux possible.
Et il faut le rappeler, c'est assez rare, c'est un festival entièrement gratuit.
Exactement, oui. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de clôture. Tout c'est ouvert, donc il faut pas hésiter à venir.
Voilà, on peut passer, on entend des notes et puis on vient tout simplement au parc du Crocheton.
Exactement.
Et est-ce que c'était une envie dès le départ de faire un festival qui soit accessible à tous, gratuit?
Oui, c'était une des valeurs fondamentales. Le but, c'est vraiment de promouvoir et de faire découvrir ou redécouvrir la musique blues sous toutes ses formes. Et puis on a bâti ce